Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu nous as aimés le premier. Tu es venu pour nous faire du bien ce matin. Tu as envoyé ta parole et ta parole va toucher quelqu'un, je le sais. Béni soit ton nom, Dieu d'Israël. Toi qui es élevé, toi qui es très élevé. Tu connais les problèmes des hommes parce que tu les as créés. Merci Seigneur de solutionner le problème de quelqu'un ce matin. Que ta bonne main touche. Passe par les ondes, passe par les médias, guéris, sauve, fortifie, éclaire, redresse-nous. Nous avons besoin de toi. Sans toi, rien de possible, rien de viable ne serait donné, ne serait bon pour nous. Père, nous remettons cet entre tes mains, fais-nous du bien. Merci pour tout, Saint-Esprit, passe dans les rangs, soutiens, fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur qui nous a réveillés ce matin par les acclamations? Je m'en vais remercier le serviteur de Dieu, le pasteur Joseph Bondo, qui a voulu que je passe ce matin pour apporter la parole de Dieu, qu'il soit béni, lui, sa femme, ses enfants, que Dieu les touche au nom de Jésus. Et je voudrais aussi saluer nos bien-aimés qui se trouvent à la prison centrale de Makala. À 7h, ils sont à leur radio en train d'écouter la parole de Dieu aussi. Que Dieu les bénisse énormément. Le thème que nous voulons partager ce matin est très simple, c'est le suivant. Les blessures intérieures. Deux points. Conséquences et remèdes. Les blessures intérieures, conséquences et remèdes. Je nous propose ce matin trois lectures, trois portions de la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 13, versets 19 à 23. Après, nous lirons Genèse 45, 5 à 9, et nous finirons dans le Nouveau Testament en lisant Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Je lis au nom du Seigneur, 2 Samuel 13, versets 19 à 23. « Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ?» Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses, et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs de Baal Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Genèse 45, versets 5 à 9. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduite ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous pouvons nous douter, mes bien-aimés, vu la grandeur du sujet abordé ce matin, que nous ne saurons pas en quelques minutes traiter ce sujet en long en large. Néanmoins, nous allons étudier ce sujet en nous servant de deux personnages bibliques qui ont subi des blessures, mais dont les réactions étaient différentes. Et nous conclurons en parlant de la solution pour guérir des blessures de l'âme. Les blessures intérieures, qu'est-ce ? Les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Elles atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur et même l'amour du prochain ou de soi-même jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif. Les blessures intérieures peuvent être causées ou occasionnées par plusieurs facteurs, notamment le diable, l'ennemi de nos âmes, le péché, les circonstances négatives, les hommes méchants, etc. Le monde dans lequel nous vivons, mes frères, ne fait pas de cadeaux. Amen. Le monde dans lequel nous vivons ne fait pas de cadeaux. Même étant chrétiens, nous subissons et nous subirons des choses qui sont susceptibles à créer en nous des blessures qui ne pourront pas être guéries par un médecin spécialisé, qui ne pourront pas être guéries par un musicien, même si on l'appellerait le réparateur de cœur brisé, qui ne pourront pas être réparées par la boisson, mais qui ne pourront être réparées que par Jésus et Jésus seul. Jésus est venu guérir des cœurs brisés. Ce matin, vous êtes brisé par une situation qui vous est arrivée. Vous avez donné, mais en retour, vous recevez des broutilles. Le Seigneur est celui qui est venu vous consoler. Le Seigneur est celui qui est venu panser les plaies de votre cœur. Il est ce Dieu que nous servons ce matin. Merci Jésus d'être venu sur la terre. Sans toi, nous serions perdus. Nous serions amers pour le monde. Mais tu nous as donné du goût. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes ceux que tu as rachetés par ton sang. Que ton nom soit béni, Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence parmi nous. Beaucoup de personnes souffrent des blessures dans l'âme et ont des réactions compliquées que l'on pourrait confondre avec des traits de caractère. Il n'en est rien pourtant. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est la manifestation d'une blessure dans son cœur. Il est très dur quand il parle. Quand il doit traiter le cas de quelqu'un, on ne voit que de la dureté. Mais regardez son enfance. Peut-être qu'il a grandi dans un camp militaire. Il avait été géré par un père qui était général. Et le voilà en train de faire du mal aux autres. Mon frère, nous ne sommes plus au camp militaire. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Aujourd'hui, vis ta vie dans la liberté. Ne sois pas esclave de ce que tu as vécu hier. Ton passé n'a pas d'avenir. Ton passé est passé. Aujourd'hui, des nouvelles choses peuvent commencer à condition de te confier en Jésus, celui qui sauve et qui change la vie des hommes. Merci Seigneur. Nous allons tourner notre partage autour de deux points essentiels. Premier point, les blessures et leurs conséquences. Les blessures et leurs conséquences. David, roi d'Israël, après avoir péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, sera puni. Et le prophète Nathan viendra lui dire, désormais, l'épée n'épargnera plus jamais ta famille, ne s'éloignera plus jamais de ta maison. C'est dans ce contexte qu'Absalom, troisième fils de David, va naître. Il va naître dans une famille polygame. Cela va sûrement être la naissance des blessures dans son cœur. Combien de personnes issues de familles polygames vivent comme des blessés, ayant subi des injustices énormes dans leur maison? Certains ont grandi sans l'apport de quelqu'un de l'extérieur, et ceci les rend solitaires, au point de penser qu'ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Beaucoup ont hérité des combats de leur maman, Malgré eux, ils sont entrés dans un conflit familial terrible. Ils ont hérité des blessures de leur maman. Ils voyaient comment elle était quatrième femme et qu'elle souffrait pour joindre les bouts du mois parce que l'homme ne venait pas, l'homme irresponsable. Bien-aimé, mon père m'a toujours dit ceci. Si tu vas avoir des problèmes, n'aie pas le sida, tu peux guérir un jour. N'aie pas le cancer, on peut trouver une solution. Prends seulement deux femmes. Tu auras des problèmes très sérieux. Amen, amen. Nous sommes de ceux qui protégeons l'institution de Dieu. Un homme est fait pour une femme. Je l'ai toujours dit et je le dirai encore. Si Dieu voulait qu'un homme épouse un homme, il allait créer Adam et Philippe. Alléluia. Excusez-moi, moi je vois des choses terribles. Je regardais encore les informations dernièrement. On parlait du polyamour. Un homme qui vit avec deux femmes. Ils sont là, dans la même chambre. Et ils trouvent ça normal. Ils vivent comme ça, ce n'est plus... On va tellement loin dans ces choses. Si Dieu voulait qu'un homme épouse deux femmes, il allait créer Adam, Ève et Fifi. Il n'a pas fait ça. Il a fait un homme. Et de cet homme, il a tiré une côte. Et il a fait Ève. Quand Adam a vu Ève, il a dit, waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os. Amen, amen. Nous devons respecter et honorer cette institution. Sinon, nous allons créer des blessés. Exemple, Léa et Rachel, qui étaient sœurs, n'est-ce pas? Qui venaient de la même maison, mais qui vont se livrer à un conflit terrible pour gagner leur mari, Jacob. Et ils vont transmettre ce conflit à leurs enfants, qui iront de bataille en bataille, qui iront de jalousie en jalousie, parce qu'ils ne sont pas du même lit. D'autres vivent et subissent les actions d'un conflit coutumier dont ils ne connaissent même pas l'origine. L'arrière, arrière, 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 grand-père avait emprunté une houe chez l'arrière, arrière, 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 grand-père. Et il n'a jamais remis la houe. Et la discussion a commencé. Elle s'est transmise de génération en génération. On est en 2019. Ça s'est passé en 1821. Et aujourd'hui, on est en train de vivre les conflits ascendants. Mon frère, aujourd'hui, sois apaisé dans ton cœur. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que ces choses soient effacées de ta vie. Oublie ces choses. Pardonne. Parce que le Seigneur va aller avec toi quelque part. Tu portes un fardeau très lourd. Abandonne ces choses. Et Dieu veut te rendre la vie. Absalom avait plusieurs frères. Et une sœur, Tamar, avec qui il partageait la même mère. Tamar sera violée par Amnon, demi-frère, aîné de David. Un acte incestueux. Combien de familles souffrent aujourd'hui à cause des cas incestueux signalés chez eux? Combien vivent des choses comme celle-là, abusées par son père, abusées par son oncle? La femme ne veut plus se marier, grandissant, elle n'aime plus. Elle n'aime pas ses enfants comme elle devait les aimer. Tout cela parce qu'il y a une blessure quelque part. Combien de personnes vivent et manifestent ces choses encore aujourd'hui? J'ai vu un cas, alors que j'étais à la prison centrale de Makala, il y a un frère qui vient me voir. Il me dit, pasteur, j'ai besoin d'un entretien. Il me dérangeait tellement. Je me suis dit, bon, je l'écoute quand même. Il m'a dit, pasteur, ce que je vais te dire va te dépasser. Je lui ai dit, parle quand même. J'ai déjà écouté beaucoup de choses. Ce ne sera pas la première fois que j'entende ça, peut-être. Il m'a dit, pasteur, j'ai violé ma fille de 4 ans. Je n'ai pas arrêté là. J'ai violé aussi celle qui avait 6 ans. Et j'ai fini par violer celle qui avait 12 ans. C'est ma femme qui m'a fait arrêter. Quelle blessure! Quelle difficulté! Nous causons tellement de dégâts, des fois nous ne nous rendons pas compte. Ce sont des bombes à retardement que nous lâchons dans la société. Des hommes qui vont faire du mal. Il y a des gens blessés à la tête des entreprises. Il y a des gens blessés à la tête des pays. Il y a des gens qui n'ont pas connu leurs parents et qui pensent que maintenant, ils doivent faire du mal à tous parce qu'ils sont en train de punir leurs parents qui sont décédés. Amen, amen. Ce matin, reçois la paix au nom de Jésus. Ce matin, pardonne et oublie ces choses. Rejette-les au loin, dans la rivière de l'oubli, parce que Dieu veut changer ta vie. Absalom va garder cette blessure, cette action ignoble posée contre sa sœur, née de la même mère. Et comme malheureusement, il sentira la passivité de son père, le roi, qui au lieu de frapper fort, la loi interdisait de tel acte, le viol, l'inceste. Il va être passif par rapport à cette affaire et sera simplement très irrité de nier la parole de Dieu. Absalom va haïr son frère Amnon. Pendant 2 ans, il va méditer le mal par rapport à Amnon. Et comment il allait se venger pour venger l'honneur de sa sœur qui avait été violée. Il y a une pensée dans le monde, que je n'encourage pas, qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Absalom, au lieu de pardonner, va entretenir des pensées de vengeance et préparer son crime. Il finira par y arriver en se servant d'un subterfuge pour tuer son frère Amnon. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À quoi pensons-nous ? Quel est l'objet de nos pensées quand nous sommes offensés ? Quel est l'objet de nos pensées quand nous sommes blessés ? Quel est l'objet de nos pensées quand nous sommes lésés dans nos droits ? Quand nous subissons l'injustice ? N'es-tu pas de ceux qui réfléchissent à comment se venger de quelque chose qui vous a été fait ? Ce matin, vous êtes là. Vous avez dans votre cœur un lourd fardeau. Vous avez subi des injustices. Oui, il a tort. Et vous êtes en train de penser. Alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit pointe ces choses dans votre cœur. Ça remonte à très loin dans votre enfance. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Même à l'école, un élève impoli, désordonné, qui vous a fait subir des choses terribles. Et à cause de ça, vous êtes ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voyons, bien aimé, que Caïn, le frère d'Abel, était blessé de ce que Dieu n'avait pas agréé son offrande et qu'il avait des mauvaises pensées à l'égard d'Abel, son frère. Mais Dieu lui dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous avons le devoir de sélectionner ce qui doit être l'objet de notre pensée. » Amen, amen. Ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vrai, vertueux, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui doit être l'objet de nos pensées. C'est comme quand nous avons une télécommande. Nous avons la possibilité ou le pouvoir de zapper pour trouver la chaîne qui nous plaît. Eh bien, ce matin, tu as une télécommande devant toi. Ces pensées mauvaises ont trop torturé ta vie. Tu es resté trop en arrière à cause de ces choses. Aujourd'hui, zappe. Aujourd'hui, zappe, mon frère. Aujourd'hui, zappe, ma sœur. Oublie ces choses. Ça va te faire des problèmes. Ça va te créer des maladies psychosomatiques. Tu vas te retrouver à l'hôpital avec un ulcère. Tout ça parce que tu te mets à réfléchir sur le passé. Mon frère, ce qui est parti n'a plus d'importance. Mais ce que tu as à présent peut t'aider à bondir pour aller plus loin. Jérémie disait, dans Lamentations chapitre 3, versets 21 à 23. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, il est 9h-10. Les bontés de Dieu ont été renouvelées à notre égard. Merci Seigneur. Oh, que ta fidélité est grande. » Il dit « c'est que je veux », c'est Jérémie qui le dit, « c'est que je veux ». Ça veut dire qu'il fait appel à sa volonté. Mon frère, tu dois sélectionner ce qui doit rester l'objet de tes pensées. Amen, amen. Ou tu choisis de t'empoisonner, ou tu choisis de te donner de l'espérance. Les mauvaises pensées empoisonnent des relations. Les mauvaises pensées empoisonnent l'avenir. Les mauvaises pensées vont même empoisonner ceux qui sont sous votre influence. Alléluia. Nous nourrissons nos pensées de ce que nous laissons entrer, ce que nous écoutons, ce que nous voyons. Il faut mettre un filtre, il faut mettre un tamis, il ne faut pas laisser tout passer. Excusez-moi la tautologie. Toutes, écoutez-moi bien mes frères, toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre et à intérioriser. Amen, amen. Oh, il m'a fait ceci. Oublie. Betangokara. En lingala. Amen, amen. Oublie ça. Ne laisse pas ces choses polluer ta vie. Ça détruit ta vie. Tu es en train de faire du mal sans le savoir à ton entourage. Tout cela parce que tu as laissé cette plaie vive. Tu n'as pas voulu venir à Jésus qui pardonne. Tu n'as pas voulu venir à Jésus qui peut te donner de l'espoir. Ce matin, nous voulons dire à toutes ces mauvaises pensées qui tourmentent nos vies, allez-vous-en, au nom de Jésus. Laissez-moi vivre dans la liberté de Jésus et que la parole de Dieu habite abondamment dans mon cœur. En étudiant la réaction d'Absalom suite à ses blessures, il y a quelques points importants à connaître qui nous permettent de voir comment les blessures agissent dans la vie des hommes. 2 ans, 730 jours n'avaient pas suffi à Absalom pour pardonner. Les blessures intérieures doivent être soignées. Le temps ne suffira pas toujours pour panser les plaies. Seul Dieu, par le concours de la puissance du Saint-Esprit, est capable de nous guérir. Selon Psaume 147, verset 3, il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui panse leurs plaies. Souvent, nous refusons de regarder la situation en face. Nous laissons le temps faire pour enterrer les blessures. Nous faisons un effort d'oublier avec nos efforts humains. Nous essayons de penser à autre chose. Mais pourtant, la blessure n'a pas disparu. Elle est allée loger dans votre subconscient. Et elle attend un stimulus pour se manifester. Amen, amen. Elles sont comme exhumées. Ces plaies sont mises à jour à cause d'un stimulus. Combien de personnes, au Congo surtout, vivent dans un haut degré d'irritation? Amen, amen. Il ne faut même pas gratter loin. Tout près, quand vous le fleurez seulement, vous le voyez bondir, prêt à vous faire du mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon frère? Excuse-moi. Non! Tu m'as piétiné. Mais tu vois comment on est ici. On est entre beaucoup de personnes. C'est difficile. Voilà ce qui se passe. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Vous avez vu ça dans les bus dans lesquels nous entrons, n'est-ce pas? Il suffit seulement que vous preniez la place sans le savoir. Lève-toi! Tout cela, c'est le résultat d'une blessure. Regarde bien la journée de cette personne. Pas payé. Pas de loyer. Les enfants sont chassés de l'école. Il n'a rien à manger sur sa table. Et quand il doit réagir, c'est avec toute la colère due à ces choses qu'il a vécues la journée. Pardonne cette personne. Le Seigneur est capable de changer ta vie ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire ressurgir les blessures. Un bruit, un lieu, une parole. Une insulte, je ne sais. Vous entendez ça à la télé, mais c'est comme si c'est vous. C'est à vous qu'on parlait. Parce que vous avez déjà entendu ça quelque part. Vos parents vous ont tellement brimé. Vous ont tellement élevé à la militaire. Au point que vous êtes devenu très, très compliqué. Très, très taciturne. Très, très renfermé. Aujourd'hui, qu'un sourire vienne de votre visage. Parce que le Seigneur est celui qui guérit les blessures intérieures. Deuxième chose que nous voyons dans le cas d'Absalom, aucun lien, même ceux du sang, ne peut empêcher la blessure d'évoluer et même de s'infecter. Caïn et Abel étaient dans les champs. Ils avaient un même père, une même mère. Il n'y avait personne d'autre que Caïn et Abel. Mais Caïn était blessé parce qu'on n'avait pas reçu son offrande. Il a trouvé son frère. Il a pris pour un ennemi. Il s'est vraiment fait mal par ses pensées. Vous avez un frère peut-être difficile, un frère compliqué. Nous tous, nous avons des genres de choses comme ça dans nos familles, n'est-ce pas? Même un cousin difficile, le Seigneur veut changer sa vie. C'est par votre comportement qu'il va passer. C'est par votre attitude d'amour qu'il va passer. Amen, amen. Oh, bien-aimé, j'ai une révélation très, 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 très importante à vous dire ce matin. Votre meilleur ami, c'est Dieu. Alléluia. Votre meilleur ami, c'est Dieu. Combien de fois nous sommes trahis par nos propres frères. Mais Jésus, notre grand frère, ne nous trahira jamais. Il sera toujours avec nous. Troisième réaction. La réaction des blessés est souvent disproportionnée par rapport à l'acte qui les a offensés. Tamar a été violée. Elle a été déshonorée. On a jeté son honneur dans la boue. Elle a souffert. mais elle vivait encore. Tandis que Amnon va mourir. Alléluia. Violet vivait encore, mais là-bas, mort. Il ne vit plus. C'est fini pour lui. Son histoire s'est arrêtée là. Mais l'histoire de Tamar a continué. Peut-être même qu'elle s'est mariée après, qui sait. Un homme blessé va blesser davantage. Alléluia. Un homme blessé va blesser davantage. C'est curieux, comme une petite blessure mal soignée ou pas soignée du tout peut s'infecter et porter préjudice à tout le corps. Absalom, après avoir tué son frère, va s'exiler pendant 3 ans. Et après qu'il reviendra, il va passer 2 ans pour attendre de voir le roi son père. Donc 5 ans. Et après lui avoir demandé un pardon superficiel, il va se rebeller contre son père David, divisant le peuple. Et cela va entraîner une guerre fratricide qui va coûter la vie à 20 000 hommes. Et lui-même finira par mourir suspendu entre ciel et terre par un arbre, un térébinthe. Et il va être tué par Joab à coups de 3 javelots. Frères et sœurs, pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pardonne cette marâtre qui t'a maltraité, qui a fini par détruire ton enfance. Quand tu la vois aujourd'hui, tu as encore de la haine à son égard. Pardonne. Vous savez, ceux qui veulent nous faire du mal, ils sont en train de travailler dans le programme de Dieu pour que nous ayons le bien en finale. Au final. Amen, amen. Pardonne cette maman qui t'a fait du mal. Pardonne ce père que tu as eu, qui t'a rendu la tâche très difficile, qui a marché sur ta personnalité au point de tuer ta propre estime de toi-même. Amen, amen. Il y a des gens qui ne se considèrent plus comme rien. Ils se prennent pour un papier, pour un vulgaire tissu qu'on a jeté. Ils ne se sentent plus hommes. Et d'ailleurs, quand on lui parle de ses qualités, il dit c'est faux, vous mentez. On l'a tellement bourré la tête qu'il ne valait pas grand-chose. Ce matin, tu es venu dans la maison où Dieu veut réparer ta vie. Ah mon frère, tu vaux quelque chose. Tu as dit prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Si tout le monde de la terre ne t'aime pas, Dieu t'aime. Dieu t'aime, tu n'as aucune idée. Dieu t'aime, c'est comme ça qu'il a envoyé Jésus, afin que tu vives et que tu sois dans son ciel de gloire bientôt. Dieu m'aime. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi. Moi, je sais que Dieu m'aime. Et je suis très fier d'être son enfant. Voiture, pas voiture. Je suis fier d'être son enfant. Argent, pas argent. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Marié, pas marié, fier d'être de la famille du grand roi. Je ne sais pas quel est le nom de votre famille. Votre famille va disparaître bientôt. Mais il y a une famille qui va régner éternellement. C'est la famille des enfants de Dieu. Et j'en fais partie. Je suis entré dans le ciel à cause de Jésus que j'ai accepté dans mon cœur. Merci Seigneur. Tu m'aimes. A dit à ton frère Jésus m'aime. Alléluia. Merci. Pardonnez ces parents qui ne vous ont pas emmené vous faire vacciner contre la polio. Aujourd'hui, la conséquence, c'est que vous êtes devenu handicapé. J'ai vu un cas pareil. Les femmes battues. Les conséquences sur les enfants. Et puis, mon frère, soit dit en passant, comment pouvez-vous battre votre femme? C'est un acte de faiblesse. Vous ne devez pas le faire. Vous ne pouvez pas porter la main sur votre épouse. C'est la chair de votre chair. Quand vous le faites, tout le monde voit, les enfants voient. Et vous ne serez pas étonné de voir que vous avez engendré un monsieur violeur qui va créer des problèmes dans la société bientôt. Amen, amen. Si vous êtes là, madame, on vous a frappé, on vous a roué de coups, on vous a pris pour un punching ball, pardonnez votre mari. Il y a une femme qui dit, pasteur, tu ne sais pas, ce jour-là, vraiment, il a fallu me crever l'œil. Oui, c'est un apprentissage dans les choses de Dieu, dans ce que Dieu veut faire dans votre vie. Les hommes et les femmes abandonnés par leurs époux ou épouses, qui sont restés seuls en train d'élever les enfants, elles sont devenues et hommes et femmes en même temps. Elles doivent travailler durement pour essayer de permettre à ce que cet enfant aille à l'école. Ça fait très mal. Elles sont blessées. À chaque fois qu'il y a une facture qui arrive, elles pensent à l'homme qui l'a abandonné. S'il était là au moins. Mais mon frère, tu as plus qu'un homme. Tu as Jésus de Nazareth. Il y a de ceux qui ne s'acceptent pas physiquement. Ils se trouvent trop forts, pour ne pas dire gros, trop petits, trop élancés. Ils ne s'acceptent pas et ils sont blessés à cause de ça. Ce matin, laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes une merveilleuse créature que le Seigneur a créée. Amen, amen. Qui vous a dit que parce que vous êtes forte, vous ne vous marierez pas? Qui a dit ça? Et qui a dit que parce que vous êtes mince, vous allez vous marier? Tout dépend de celui qui a fait le ciel et la terre. Il a dit, la course n'est point aux agiles, la guerre n'est point aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend des temps et des circonstances. Tout découle de la grâce de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, il y a une part de miracle. Même quand vous vous réveillez, un miracle s'est accompli. Le Seigneur fait des miracles en grand nombre, nous ne les voyons pas. Le simple fait de respirer, c'est une grâce de Dieu. Amen, amen. J'étais avec un médecin qui m'a dit, quand vous sentez que vous êtes en train de respirer, c'est qu'il y a une anomalie. Est-ce que vous sentez que vous respirez là? Mais pourtant, vous avez poussé beaucoup de soupirs et vous avez beaucoup respiré. C'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Il y a de ceux, bien-aimés, qui sont de grande taille. Gloire à Dieu pour ta grande taille. Il y a de ceux qui sont de petite taille. Ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Et s'il y a concurrence, vous dépassez l'autre par votre petite taille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout n'est que grâce. Il y a de ceux qui ont subi des blessures qui remontent à leur période prénatale. Les enfants entendaient leurs parents se chamailler dans le ventre, les jumeaux. Quand ils sont sortis dans le monde, ils ont commencé à faire des problèmes. Ils voyaient leur mère, ils sentaient que leur mère était triste à cause de ce qui lui était arrivé. Les enfants sentent, n'est-ce pas? Il est prouvé que dans le ventre, les enfants entendent même les bruits, les sons. Moi, ma fille chante très bien. Demandez-moi pourquoi. Sa mère chantait tout le temps. Même quand elle était enceinte à 9 mois, elle allait au studio. Elle chantait. Donc ma fille, elle avait un prof de musique à domicile. Alléluia! Et c'est comme ça que, aujourd'hui, quand je la vois chanter, je ne m'étonne pas. Dites des bonnes choses à votre enfant. S'il y a une femme enceinte, dites-lui des bonnes choses. Dites des choses qui vont permettre à cet enfant, venant dans ce monde, soit un champion au nom de Jésus. Qu'il soit un champion qui va faire des grandes choses. Gloire au Seigneur. Il y a de ceux, bien-aimés, comme je disais, qui ont subi des blessures lors de leur période prénatale. Il est 4e chose. Absalom ne va parler ni en bien, ni en mal devant Amnon. Certaines personnes manifestent leur état de blessé par le silence. Ils décident de se taire. J'appelle ce silence le silence qui tue. Absalom avait sûrement rencontré Amnon pendant ces 2 années. Mais il ne disait rien. Il bouillissait à l'intérieur. Il avait mal, mais il ne disait rien. Il y a des conjoints mariés qui manifestent le mécontentement par le silence. Ce matin, vous êtes venus au bon endroit. Nous allons prier pour que la glace soit brisée aujourd'hui. Si vous ne parlez pas à votre conjoint, ce n'est pas normal. Vous n'allez résoudre aucun problème. Le dialogue va résoudre les problèmes. Merci Seigneur. Prenons maintenant l'exemple de Joseph. On nous en a parlé longtemps la fois passée. Joseph était aussi issu d'une famille polygame comme Absalom. Et d'ailleurs, cette polygamie lui avait valu la haine de ses frères, qui l'ont vendu comme un esclave. Nous ne nous rendons peut-être pas compte de ce qui s'est passé. Il a été vendu. Il avait vécu 17 années avec ses frères. Amen, amen. Ils dormaient peut-être dans la même chambre. Ils avaient peut-être la même nourriture, certainement d'ailleurs. Mais un jour, les amis se décident, on va vendre cet homme-là. Comme une chèvre, hein. Certainement ils ont même marchandé. Bon, moi je donne 10 000 pour lui. Non, un monsieur bien comme ça donne 12 000. Il dit, bon, je donne 11 000, on s'arrête là. Ça va, marché conclu. Allez les Madianites, prenez-le, partez avec. C'est un colis qu'on a emmené en Égypte. Mais on va retrouver 13 ans plus tard un premier ministre. Oh, peu importe la façon dont Dieu va t'introduire dans ta destinée. Il est celui qui élève qui il veut, quand il veut, où il veut. Merci Seigneur. Quelle blessure Joseph avait vécue. Il a vécu une blessure terrible. Durant des années, il va vivre comme un esclave alors qu'il était fils d'un homme libre. Et bien aimé, nous ne pouvons pas toujours comprendre le plan de Dieu. Celui qui est entré comme un colis en Égypte, c'était le premier ministre. Vous pensez, bien aimé, que les marchands madianites étaient au courant que c'était le premier ministre? Vous pensez que s'ils savaient, ils l'auraient mis à la première place, n'est-ce pas? Ils auraient déjà donné des CV. Voilà, quand tu vas entrer dans ton royaume, Dieu nous camoufle des fois pour que personne ne sache ce qu'il a enfoui à l'intérieur de vous. Amen, amen. Il va vous déguiser. Ce matin, il vous a déguisé en quelqu'un qui cherche l'emploi. Alléluia. Mais bientôt, il va faire paraître la destinée de votre vie. Alors, bien-aimé, calmez-vous. Vous êtes en plein déguisement. Le Seigneur, le metteur en scène, est en train de faire tout pour que tout soit en place. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous ne connaissez pas votre voisin. Vous ne savez pas ce qu'il sera demain. Ne le méprisez pas. Dieu a un projet pour vous. Ça va passer par cette association. Plus vous vous saluez, plus vous vous rapprochez, plus le Seigneur va faire quelque chose pour que vous vous tiriez, que vous montiez au nom de Jésus. Moi, je prie pour que ça se passe ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Amen, amen. Oh bien, mais si on arrêtait l'histoire de Joseph, à l'heure où on l'avait vendu, à l'heure où il était entré dans le chariot des Madianites, personne n'aurait imaginé la suite. Alléluia. Même le cerveau le plus imaginatif allait se perdre, allait se brouiller, parce que Joseph était dans le programme de Dieu. Joseph a subi une longue épreuve de 13 ans, mais il a pardonné. Il a compris que le Seigneur avait voulu qu'il le précède en Égypte pour qu'il sauve une nation entière. Si Absalom a vécu en traitant sa blessure, en emmenant la guerre en Israël, Joseph, par contre, en pardonnant, a été guéri et a sauvé son peuple. Gloire au Seigneur. Je vois Joseph ce jour-là. Ah, c'est merveilleux. Je le vois, on enlève ses habits de prison. Il y a un temps pour tout, mes frères. Il y a un temps pour porter le vêtement de l'humiliation. Et il y a un temps pour porter le vêtement de la destinée. On l'a fait sortir. On lui dit, on va quelque part. Il n'avait peut-être jamais vu Pharaon. On le présente. Maintenant, il y a un rêve à interpréter. Il interprète. Et Dieu fait grâce. J'entends les informations de 20 heures ce jour-là. Je ne sais pas comment est-ce. Vous connaissez votre générique. Moi, je donne un générique. Je ne connais pas. Amen, amen. Ordonnance royale numéro 002, portant nomination du premier ministre. Et nommé premier ministre, Joseph de Canaan. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Et là, bien aimé, la femme de Potiphar est en train de regarder les informations. La cuillère tombe. On ne comprend plus rien. C'est qui ce Joseph? Est-ce qu'il est de la majorité présidentielle? Est-ce qu'il est de la majorité royale? C'est qui ce Joseph-là? Alléluia! Est-ce qu'il est de la gauche? Est-ce que c'est un travailliste? Est-ce que c'est un progressiste? Est-ce que c'est un conservateur? Il est de la droite? Est-ce qu'il est du centre? Non! On ne le connaît pas! On a seulement enregistré un jour il y a 13 ans. Un colis était entré en Égypte. Un colis qui était entré en Égypte. Alléluia. Et ce colis est à la tête de l'État aujourd'hui. Ah, mon frère, Dieu sait prendre les hommes de la poussière. Il les élève pour faire asseoir avec les grands. Deuxième point, et nous allons finir par là. Le remède aux blessures intérieures. Comme les blessures physiques, les blessures de l'âme guérissent par un processus. Premièrement, que faut-il faire? Il faut reconnaître que nous sommes blessés. Beaucoup ne se connaissent pas comme étant blessés. Et ils font du mal autour d'eux. Il n'y a pas plus dangereux qu'un homme qui s'ignore. Deuxièmement, il faut pardonner. Nous parlons du pardon que nous demandons à Dieu. Du pardon pour soi-même. Du pardon que nous donnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus, enseignant la prière de notre Père, a dit que le pardon que nous voulons recevoir de Dieu est tributaire de celui que nous devons accorder à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelques points à connaître sur le pardon, très important. Il faut retenir ceci. Le pardon doit être demandé de tout cœur. Quand un pardon est demandé partiellement ou en partie, ce n'est pas un pardon. Pardon partiel est égal à manque de pardon. Ne demandez pas pardon comme les chauffeurs taxi congolais. Ils prennent la quatrième bande là. quand tu lui parles, il dit, ah, pardon, Cassie. Le pardon n'est pas un déni. Ce n'est pas nier qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose. Amen, amen. Le pardon n'est pas une raison qu'on donne à l'autre en restant dans la culpabilité personnelle. Non, ce n'est pas qu'il a raison. Mais pardonner, c'est lâcher prise. C'est prendre la décision d'obéir à Christ. C'est accepter la seule voie par laquelle nous serons libérés. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de maturité. C'est le signe que nous voulons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Pardonner, mes frères, c'est manifester l'amour, parce que l'amour pardonne tout. Alléluia. Dans nos sociétés actuelles, il y a peu d'amour. Il y a peu de pardon. Regardez beaucoup de choses qui se détériorent. C'est un manque de pardon. Nous sommes trop durs avec les autres. Quand nous le voyons faire, nous sommes très, très mécontents. Et nous le lui montrons. Bien-aimé, celui qui souffre a droit à la compassion de ses amis. Quand vous avez quelqu'un qui souffre à côté de vous, n'appuyez pas là où ça fait mal. Aidez-le. Pardonnez. Enfin, nous n'avons pas le droit de refuser le pardon sincère demandé par notre frère. Alors que Jésus parlait du pardon, Pierre va poser la question à Jésus. Combien de fois nous devons pardonner à nos frères? Les rabbins juifs enseignaient qu'on devait pardonner seulement 3 fois. Pierre, lui, s'estimait généreux. Et au-dessus du lot, en invoquant le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude, 7. Jésus va lui répondre, non, il ne faut pas pardonner seulement 7 fois, mais on peut pardonner 70 fois 7 fois. Jésus indiquait autrement que nous ne devons pas comptabiliser le pardon que nous donnons aux autres. Et comme à son habitude, il va s'expliquer et commenter le royaume des cieux par une parabole. Il y avait un homme qui devait 100 talents d'argent. 100 talents équivalent à 60 millions de pièces d'argent ou de deniers. Sachant qu'un denier était le salaire journalier d'un ouvrier agricole. C'était une somme colossale, pharaonique. Qui peut avoir une telle dette? Cette dette, si 60 millions de pièces, était évaluée à donc 164 000 journées de travail. Amen, amen. Pardon, années de travail. Qui peut vivre autant d'années? Qui a eu une telle dette? Cette dette est à comparer avec notre dette, celle que nous avions devant la justice de Dieu. Une dette immense, impossible à gérer par nos propres moyens. Quand cet homme va dire « Laisse-moi le temps pour payer », c'est une illusion qu'un homme se fait de croire qu'il pourra satisfaire aux exigences divines. Personne ne pouvait payer ce que nous devions. Il a fallu Jésus. Jésus a payé le prix. Merci Seigneur, tu es spécial pour nous. Cet homme avait été pardonné. La dette va lui être remise. Et ça, c'est le signe d'un Dieu compatissant. Il était ému de compassion. Dieu n'est pas comme les capitalistes de ce monde. Qui peut remettre une telle dette si ce n'est Dieu? Il va lui remettre la dette. Mais au sortir de là, il va sortir dans la joie. Il rencontre son débiteur qui ne lui devait, lui, que 100 pièces d'argent. Soit 1 sur 600 000 de moins que ce que lui, il devait, qui lui a été remis autrefois. Il le trouve et directement constater sa brutalité, constater sa façon de faire. Il va l'accrocher, l'étrangler. « Paye-moi mes 100 pièces !» Et l'autre va répondre de la même façon qu'il avait répondu la fois passée. « Laisse-moi le temps, je te payerai. » Quand lui dit « Laisse-moi le temps », il peut payer cette dette-là. Ce n'est que 100 pièces. Amen, amen. Il refuse catégoriquement et il va le mettre en prison. Ses compagnons furent très attristés de cette attitude. La réaction normale devant une injustice est d'en être attristé, d'en faire part au roi, et non de méditer les représailles et de s'adonner à la médisance. Le roi finira par le punir parce qu'il n'a pas voulu pardonner son frère. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Écoutez-moi bien, celui qui ne sait pas pardonner ne connaît pas non plus la joie d'être pardonné. Absalom avait refusé de pardonner et ceci a amené la mort en Israël. Beaucoup de chrétiens refusent de pardonner. Tu as enfermé cet homme, cette femme dans ton cœur. Tu as fermé à double tour. À Makala, les gens ont droit à la nourriture. Ils ont le droit de marcher pour se dégourdir les jambes. Dans la prison de ton cœur, tout est noir. C'est fermé à double tour. Libère cet homme. Libère cette femme. Libère ce PDG. Libère-le au nom de Jésus. Ne reste pas avec ces choses dans ton cœur. Elles polluent ta vie. Ne porte pas ces choses. Ça te détruit. L'auteur aux Hébreux dit, Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ce matin, Dieu nous parle. Nous sommes blessés par la vie, par les circonstances. Congo RDC, tu es blessé à cause des conditions de vie. Est du Congo, tu es blessé. Pardonne. Jésus veut guérir les cœurs brisés. Il y a des couples qui sont ici, qui ne s'adressent plus la parole. Ils font lit à part depuis des semaines, des mois, des années, je ne sais. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Parce que l'autre a considéré qu'il a été trop lésé. On a insulté ma mère, tu te rends compte. Il a insulté mes frères. Il a jeté notre nom dans la boue. Non, 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 non. Tout ça, je peux lui pardonner, mais ma mère... Alléluia. Pardonne. Il y a d'autres qui ont dit des mots renversants, des mots rabaissants, des mots vexants. On a attenté à ta personnalité. Ce matin, votre famille peut être divisée. Peut-être vous êtes du deuxième, troisième lit. Vous vous disputez une maison pour la vendre, avoir les dividendes. Vous vous disputez peut-être la garde d'un enfant. Pardonnez. Le pardon va emmener la vie. Une vie épanouie, comme Joseph. Vous jouirez de la bénédiction et vous deviendrez une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais que nous fermions nos yeux rapidement. Tu as quelqu'un dans ton cœur. Quand je parlais, tu l'as vu. Tu n'acceptes pas de pardonner. Lève-toi, on va prier avec toi. Je sais que tu vas me dire, mais on verra tous que je n'étais pas bien. Lève-toi, s'il te plaît. Dieu veut faire quelque chose. Accepte de pardonner ce matin. Cet homme t'a promis le mariage. Il n'est jamais venu. Au contraire, il s'est marié à ta meilleure amie. Lève-toi. Accepte de pardonner. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu du pardon. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ce matin, mon frère, tu as été blessé par l'entreprise dans laquelle tu travaillais. Tu as été licencié abusivement. On ne t'a même pas donné le salaire qu'on te devait. Aujourd'hui, tu ne sais plus nourrir ta famille comme il le faut. Pour manger, tu dois demander à quelqu'un. Dieu veut te donner quelque chose de meilleur aujourd'hui. Lève-toi. Nous allons prier le Dieu qui va faire grâce. Bien-aimé, là où vous êtes, vous avez certainement un sujet pour lequel vous ne vous acceptez pas. Peut-être votre taille. Peut-être votre âge. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent vous complexer. Lèvez-vous. Dieu veut faire grâce. Même au chapiteau. Si vous sentez que le Saint-Esprit a touché votre cœur, alors lèvez-vous. Dieu veut pardonner votre vie. Vous allez pardonner vous-même d'abord. Seigneur, merci. Merci. Je n'ai pas effleuré tous les sujets. Il y a beaucoup de sujets qui manquent. Vous les connaissez vous-même. Le Saint-Esprit a parlé. Même à la chorale. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans un protocole particulier. Nous voulons que la vie de Dieu entre. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la vie. Il veut emmener la vie. Là où il y avait la mort qui s'installait. On ne vous a pas payé. Vous avez travaillé d'arrache-pied depuis beaucoup d'années. Mais on ne donne pas ce que vous avez. On n'a pas remis ce qu'on vous devait. Seigneur, merci. Dans votre famille, il y a des troubles. Vous ne vous entendez pas avec tel et tel. Vous êtes dans une situation de crise. Le Seigneur veut changer ces choses. Lèvez-vous. Ça vient de loin dans votre enfance. Les familles sont séparées, brisées. Seigneur, merci. Merci pour l'assemblée qui se lève. Merci pour les gens que tu veux bénir. Merci parce que, comme Joseph, ils vont être une source de bénédiction. Beaucoup de nations seront bénies au travers eux, à cause du fait qu'ils vont pardonner. Maintenant, bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ce qui t'arrive. Et demande pardon. Et demande, pardonne ces personnes. D'abord, toi-même, tu peux te pardonner. Parce que tu as été trop dur. Tu as été trop dur. Demande pardon à Dieu. Pardon. Pardonne ceux qui t'ont offensé. S'il faut demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Et s'il faut te pardonner toi-même, fais-le aussi. Seigneur, merci. Merci parce que des cœurs ont été touchés. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Merci Seigneur Tout-Puissant de sauver aujourd'hui. Absalom est parti à la mort à cause d'une blessure. Nous ne voulons pas aller à la mort, nous voulons la vie. Que la vie soit notre partage au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis ce matin, quelque chose est entré dans ta vie. Mon frère, parle à Dieu toi-même. Parle à Dieu. Que Dieu soit béni. Parle à Dieu.